Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons maintenant avec saint Thomas d'Aquin à l'étude de l'âme humaine. Vous vous rappelez, nous avons étudié Dieu, puis après ça, ce que Dieu fait, nous avons étudié les anges, tout d'abord parce que ce sont les créatures les plus parfaites, puis après ça, ce que Dieu a fait dans notre bas monde, c'est-à-dire l'œuvre des six jours. Et il est évident que dans toutes les œuvres créées par Dieu durant ces six jours, seul nous intéresse l'homme. Les animaux, tout cela n'ont d'intérêt que par rapport à l'homme, et il n'y a pas besoin de s'étendre dessus. Lorsque saint Thomas d'Aquin étudie l'homme, il n'intitule pas cela l'étude de l'homme, mais l'étude de l'âme humaine. Voici ce qu'il dit. La nature humaine est du domaine du théologien en ce qui concerne l'âme. Le corps ne l'intéresse que dans son rapport avec l'âme. Et il précise qu'il commencera par étudier ce qu'est l'âme en elle-même, après ça son pouvoir, les puissances de l'âme, et après ça ses opérations, c'est-à-dire son activité. Pour être très honnête, mes bien chers frères, quand j'ai relu, pour préparer ce sermon, ces questions de saint Thomas sur l'âme humaine, qui sont des questions en apparence très philosophiques, j'ai pensé que cela était beaucoup trop philosophique pour vous, et c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas donné de sermon la semaine dernière. Car je dois, comme saint Thomas d'Aquin, m'intéresser et vous intéresser uniquement à ce qui concerne la vie chrétienne, c'est-à-dire votre salut d'une part, et votre comportement chrétien dans le monde. Malgré tout, si saint Thomas étudie cela, l'âme humaine, c'est qu'il y a une raison. Je sais bien qu'il parle plus aux étudiants en théologie qu'aux simples chrétiens, malgré tout. Et je me suis dit que plutôt que d'omettre cette étude, je devrais chercher le fond de ce qui vous intéresse, le fond de cette étude et en quoi elle intéresse des chrétiens. Et alors là, ce qui est une attitude de disciple, vous voyez, c'est paradoxal, mais on n'a pas toujours une attitude de disciple avec saint Thomas d'Aquin. Très souvent, on cherche à l'utiliser pour valider des choix qu'on a déjà faits. La véritable attitude du disciple consiste à remettre nos choix en question face à saint Thomas d'Aquin pour qu'il nous guide vraiment. Et alors là, le résultat devient très intéressant. Saint Thomas commence par une question : l'âme est-elle une réalité corporelle ? Évidemment, on pourrait répondre que tout le monde sait très bien que l'âme est spirituelle. Quel est l'intérêt de poser une question pareille et de l'étudier un peu longuement ? Eh bien, c'est que saint Thomas précise : bien sûr que l'âme n'est pas une réalité corporelle. C'est le contraire. C'est le corps qui est une réalité animée. Et voilà qui devient très intéressant, parce que cela contredit la conception moderne, faussement scientifique, matérialiste, de l'être vivant. Je ne vous dirai pas que saint Thomas est très moderne. On le dit souvent, mais c'est idiot, on n'a pas à être moderne ou pas moderne. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les erreurs de notre époque sont très anciennes. Elles avaient disparu grâce à la culture chrétienne, et elles reviennent maintenant que la culture chrétienne diminue. Et on a donc maintenant une conception marxiste qui n'aurait jamais obtenu d'écho, de crédit, qui n'aurait jamais été écoutée autrefois, à l'époque de la chrétienté. Conception marxiste qui affirme que la pensée, ce ne sont que des réactions chimiques dans le cerveau. Et sans aller jusque-là, vous avez énormément de nos contemporains qui sont persuadés que la pensée a son siège dans le cerveau. Ce qui n'est pas possible. La pensée est immatérielle, elle a son siège dans quelque chose d'immatériel, c'est-à-dire dans l'âme. Que le cerveau ait une certaine importance dans le processus, oui, mais dans le processus, nous verrons ça plus tard. Si la pensée était le fruit du cerveau, c'est-à-dire d'un organe corporel, nous serions des animaux supérieurs, mais des animaux. Et c'est ce que le monde moderne pense. Vous avez une autre erreur sur la conception de l'homme. C'est la conception qui donne une priorité aux sensibles, aux passions dans la vie humaine, ce qu'on appelle couramment, mais faussement, la psychologie. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui psychologie, psychologue, cours de psychologie, comportement psychologique, études comportementales, tout cela, ce sont des choses qui partent du corps et non pas de l'âme. Et je vais vous montrer tout à l'heure en plus que quand on parle de l'âme, il faut expliquer l'âme par plus haut que l'âme encore, quelque chose de plus haut. Cette conception psychologique, comportementale, est une conception américaine et qui envahit désormais même l'Occident et même les bons chrétiens. Saint Thomas d'Aquin, lui, ne commence pas l'étude de l'homme par le bas, par le cerveau, par les tempéraments, par les passions, mais par le haut, l'âme humaine. Alors un petit mot quand même sur cette conception qui commence par le bas. Je vous fais une citation, je suis allé tout simplement sur Internet, j'ai cherché les quatre tempéraments humains. Le premier site que j'ai trouvé, j'ai cliqué dessus, et j'ai trouvé immédiatement un résumé parfait de tout ce qu'on peut dire sur la question. Mais si j'avais cliqué sur le deuxième site, ça aurait été pareil, hein, ou le troisième tout pareil. Alors voilà, je cite, j'ouvre les guillemets. Le concept de personnalité a été étudié pendant au moins 2000 ans, en commençant par Hippocrate en 370 avant Jésus-Christ, lui-même inspiré par la théorie des quatre éléments d'Empédocle, la terre, l'eau, le feu, l'air. Hippocrate a théorisé que les traits de personnalité et les comportements humains sont basés sur quatre tempéraments distincts associés à quatre fluides, les humeurs. Ce pionnier est encore aujourd'hui une référence, notamment dans la psychologie moderne. C'est clair, hein ? Je continue. Cet article fait partie intégrante de notre masterclass « Captivé ». On est vraiment chez des gens qui s'y croient. Ou « Comment gagner en influence et performance via l'analyse comportementale ». Les quatre tempéraments sont colérique, mélancolique, sanguin et flegmatique. Vous voyez, mes bien chers frères, on ne peut pas dire plus clairement qu'on considère l'homme à partir de la matière. Et donc c'est sur la matière qu'on va fonder les rapports sociaux. Les théories là qui sont exposées sont des théories de médecins. Et encore, c'est du balbutiement de médecine. Balbutiement. Étudier l'homme et son comportement par rapport à cela, c'est vraiment le réduire au rang d'un animal, éventuellement d'un animal supérieur, mais d'un animal. Étant donné l'importance du sujet, je vais en faire un sermon complet la prochaine fois, parce qu'on retrouve ça en éducation, parce que vous avez des conférences qui ont été faites par un prêtre de la tradition, et même par plusieurs prêtres de la tradition, c'est repris, ça marche, ça marche tout seul, c'est facile, il n'y a pas besoin d'étudier, colérique, flegmatique, sanguin, allez, on met l'enfant dans telle catégorie, puis du coup, on ne voit pas plus loin, ça pardonne tous ses défauts, on a des trucs d'éducation, c'est facile, on emploie des trucs, on croit faire de la philosophie simple. En réalité, on ne fait même pas de la mauvaise médecine. Bref, je vous en donnerai un sermon complet, parce que c'est très, très, très à la mode. Revenons donc à notre sujet. Oui, même déjà chez les animaux, le principe vital, on ne parle pas d'une âme pour les animaux. Si en latin on parle de anima, c'est-à-dire principe vital qui anime, en français le terme âme est réservé à l'homme. Donc parlons du principe vital des animaux. C'est lui qui est la source de tout et non le corps. Vous prenez un chat. Le chat a un principe vital de chat. Et c'est pour ça qu'il a un corps de chat. C'est pas parce qu'il a un corps de chat qu'il a un principe vital de chat. Parce que quand le bon Dieu a créé le chat, qu'est-ce qu'il a voulu? Il n'a pas voulu d'abord un corps. Il a voulu un animal qui ait tel ou tel comportement pour accompagner l'homme, pour faire valoir telle qualité dans la nature. Donc le bon Dieu a d'abord défini un comportement. Il a voulu des comportements de chat, il a voulu des comportements de chien. Donc il a fait des principes vitaux qui correspondent au chat ou au chien. Et ces principes vitaux exigent nécessairement un corps, et donc il a fait des corps adaptés au chat ou au chien. On ne peut pas greffer un corps de chat sur un chien, c'est pas possible. Alors que Dieu a-t-il voulu lorsqu'il créa l'homme? Il a voulu créer un être capable de le connaître et de l'aimer. C'est par là qu'il faut commencer. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de la création, nous avons vu qu'elle était un rayonnement de l'amour de Dieu qui se communique de manière à ce que nous puissions aimer en retour. Lorsque Mgr Lefebvre, dans son tout petit livre, tiens, faudrait que je vous le mette en vente d'ailleurs, ça vous intéresserait, je pense. Dans son tout petit livre, qui est un archi-résumé de la Somme de saint Thomas, où il va droit au but, droit à l'essentiel. Lorsqu'il parle de la création, il ne parle pas de la matière, il parle de la bonté de Dieu. Lorsqu'il parle de l'homme, il ne parle pas de la matière ni des corps, il parle de connaître et d'aimer Dieu. Voilà ce que Dieu a voulu. Pour cela, il va créer une âme capable de le connaître et de l'aimer. L'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu, et par ce moyen sauver son âme, c'est-à-dire connaître et aimer Dieu. Saint Thomas, Saint Ignace de Loyola dit sauver son âme parce que, étant donné le péché originel, l'homme risque de se perdre. Donc Saint Ignace, qui veut être très concret, ne dit pas « l'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu et par ce moyen entrer dans son amour et dans sa contemplation ». Cela, il va nous le faire découvrir après dans la suite de ses exercices. Donc, il s'adresse à quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est plus ou moins pris par le monde, et il lui dit « l'homme a été créé pour honorer, louer, servir Dieu et attention, cher ami, vous risquez de vous perdre ». Alors tout de suite, nous sommes interpellés « oh là, moi je veux me sauver ». Alors qu'est-ce que le salut? Et Saint Ignace va nous faire découvrir le salut, ce que c'est que contempler, aimer Dieu, le contempler vraiment, l'aimer vraiment, non pas dans des théories de livres, mais dans la pratique de la vie chrétienne. Contempler et aimer, c'est une activité purement spirituelle, c'est-à-dire une activité de l'esprit, une activité éminente, qui est le propre d'un esprit, donc de l'âme humaine. Mais comme Dieu a voulu que l'homme soit également le représentant de la création terrestre, c'est-à-dire qu'il la représente et il la domine, contrairement à l'ange qui est purement spirituel. Alors Dieu a voulu que l'homme produise des activités purement spirituelles, intérieures à l'âme, qu'elles sont le propre de l'âme et produites par elle, et puis d'autres activités extérieures, elles, à l'âme, que l'âme produit en animant un corps auquel il communique sa vie. Donc le corps va être un instrument de l'âme. Ne dites jamais que l'âme est emprisonnée dans le corps. Je sais bien que Saint Ignace le dit lorsqu'il médite sur le péché, mais justement, c'est pour nous faire comprendre ce qu'est le péché. La liberté de Dieu, l'amour de Dieu, la contemplation de Dieu saisit le corps, enfin, permet à l'âme de saisir le corps. Et le corps devient un instrument, très habile d'ailleurs, entre les mains de l'âme. Plus l'âme est proche de Dieu, et plus le corps suit avec facilité. Il n'y a qu'à voir la vie des saints. Nous avons vu, il n'y a pas longtemps, Saint Pierre d'Alcantara, qui menait son corps à des choses invraisemblables, et le corps suivait avec beaucoup de souplesse, et notamment dans les grandes pénitences. Au contraire, lorsque l'âme s'éloigne de Dieu, elle se rapproche de la matière, et à ce moment-là, elle se laisse emprisonner par le corps. Et lorsque saint Ignace dit, j'imaginerai le pécheur comme une âme emprisonnée dans un corps, il le dit uniquement par rapport au péché. Et justement, lorsqu'on sort du péché, alors l'âme cesse d'être emprisonnée par le corps, et c'est le corps qui devient l'outil de l'âme. Les auteurs spirituels disent exactement la même chose d'une autre manière, lorsque saint Paul, par exemple, parle d'esclavage. Soit on est esclave du péché, soit on vit dans l'amour de Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, d'ailleurs, utilisera l'expression de façon encore plus, j'allais dire presque plus violente. Il dira, soit on est esclave de Dieu, et donc libre, soit on est esclave des passions. Bien. L'âme humaine est subsistante et immortelle. Ça, c'est des conséquences, c'est des choses que vous savez, mais ça fait du bien de les rappeler. Première conséquence. L'âme humaine est subsistante, c'est-à-dire qu'elle existe par soi. C'est-à-dire que la raison d'être de son existence est en elle-même. Contrairement au corps humain dont la raison d'être de l'existence est dans l'âme. Pourquoi l'homme a-t-il un corps ? Pour servir l'âme, la raison du corps, c'est l'âme. Comme le corps est corruptible, il n'est pas subsistant. Et voilà pourquoi il s'use et il meurt. Mais comme l'âme n'est pas liée au corps, mais que c'est le corps qui est lié à l'âme, lorsque le corps disparaît, l'âme ne disparaît pas. Et elle a beau être une réalité qui est conjointe au corps, elle est une réalité qui peut exister même sans le corps. Voilà pourquoi l'âme humaine est immortelle. C'est tellement évident que pratiquement tous les hommes y croient, ça. Y croyaient avant toutes les théories modernes qui vous font croire que l'homme est mortel et que l'âme est mortelle et qu'après la mort, il n'y a plus rien. Il suffit d'aller voir les fresques des grottes dites préhistoriques, et qui ne sont pas plus préhistoriques que ça, le culte rendu aux morts, y compris dans des civilisations païennes. On ne rendrait pas un culte aux morts si on ne croyait pas à l'immortalité de l'âme. Alors ces vérités sont des vérités, je parle de l'âme humaine, qu'on peut comprendre et connaître rien que par la raison, simplement en réfléchissant. Cependant, c'est tellement important que la révélation nous rappelle ces vérités. Le Saint-Esprit a voulu, dans l'Évangile, dans les Épîtres, que ces vérités soient rappelées de manière à ce que tout le monde les connaisse, sans exception, sans risque d'erreur, sans avoir besoin d'étudier longtemps, sans avoir besoin d'un maître éminent en philosophie. Saint Thomas pose ensuite une question. L'âme humaine est-elle de la même nature que les anges ? C'est une question que beaucoup se posent, et hélas, on donne très souvent une réponse affirmative. Ben oui, l'homme a son âme en commun avec les anges. On pourrait même croire, une formule chimique si vous voulez, ange plus corps égale homme. Origène, qui a hélas énoncé beaucoup d'erreurs et qui était hérétique, il pensait qu'il y avait des créatures spirituelles qui soit s'approchaient de Dieu et devenaient des anges, soit s'éloignaient de Dieu et devenaient des hommes. Alors la vraie réponse, Dieu a voulu les anges et les hommes pour des activités de même genre, c'est-à-dire des activités spirituelles, mais pas de même nature. Puisqu'il a voulu que les anges soient de purs contemplatifs, même s'ils ont une action dans le monde, c'est une action qui n'est pas corporelle. Tandis qu'il a voulu les hommes comme les maîtres intelligents du monde. Les hommes doivent ramener toute la création à Dieu. C'est ce que Dieu dit à Adam et Ève au début, juste après les avoir créés. Dominez la terre. C'est un petit peu comme Marthe et Marie. Les anges, ça serait Marie, et puis les hommes, ça serait Marthe. Vous voyez, Dieu peut très bien vouloir des purs contemplatifs qui ne s'occupent rien d'autre, ou de très peu de choses, comme sont les chartreux. Et puis, il veut, par contre, qu'il y ait des hommes qui lui fassent un magnifique palais avec la création. C'est une comparaison, hein, bien entendu. Vous comprenez que l'activité d'un architecte et celle d'un chartreux ne vont pas être la même. Elles vont être du même genre. Les deux sont contemplatifs. Un architecte qui n'est pas contemplatif, ça vous fait de l'art moderne, c'est-à-dire rien du tout. Mais enfin, si l'architecte n'est que contemplatif comme un chartreux, dès le 5e ou 10e rang de pierre de la cathédrale, elle s'effondre, hein. Et pourquoi cela? Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela? Parce que Dieu montre sa supériorité en agissant par des intermédiaires auxquels il communique une part de sa puissance. Et donc il a voulu régir les créatures matérielles et corporelles, non pas directement, il aurait pu le faire, hein, mais ce n'aurait pas été convenable. Mais les régir à travers un maître, l'homme. Et pour cela, l'homme doit avoir quelque chose de commun avec Dieu et quelque chose de commun avec les créatures corporelles. Un tout petit mot sur la réincarnation, qu'on appelle également métempsychose. Je voulais vous en parler avant. C'est ce qui rend la réincarnation impossible. Si l'âme de Pierre se réincarnait dans une vache, ça serait plus un homme, ça serait une vache, c'est tout. C'est-à-dire que l'âme humaine de Pierre aurait disparu, on aurait quelque chose d'autre. Or, je vous ai dit que l'âme humaine était subsistante, donc c'est rigoureusement impossible. La réincarnation à laquelle croient les bouddhistes a nécessairement été inventée par le démon, transmise par des complices des démons, pour rabaisser l'homme. Ça ne serait pas venu tout seul à l'idée d'un quelconque homme de penser qu'il puisse se réincarner dans une vache. Voilà ce que j'avais à vous dire. Primauté du spirituel, primauté de l'âme sur le corps, et l'âme elle-même s'explique par la primauté de la contemplation, de l'amour de Dieu. Vous voyez, on a cela. Dieu veut être aimé. Pour être aimé, il faut un esprit. Il fait des esprits capables de l'aimer. Il fait des esprits dédiés à son amour purement spirituel et d'autres comme l'homme qui ramène la création à l'amour de Dieu. Et c'est ainsi qu'on explique le corps de l'homme. Et nous verrons la prochaine fois en étudiant les tempéraments comment on remet de l'ordre et comment il faut se méfier comme de la peste des interprétations faciles mais complètement fausses de ces tempéraments. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.